Lizzie présente Double jeu. Une nouvelle de Franck Tillier, issue du recueil Au-delà de l'horizon, lue par Pierre Lognet. Enquête de corps. L'ombre s'arrête au milieu de la chambre, les bras le long du corps, un couteau à lame noire dans la main droite. Elle aimerait rester là, silencieuse, à regarder ce lit à travers ces dizaines, ces centaines de reflets renvoyés par les grands miroirs, à jouir de la situation. Mais la colère reprend le dessus. Alors d'un pas décidé, elle s'avance et se jette sur les draps tel un léopard à l'assaut de sa proie. La lame noire pénètre sans mal la peau, puis la chair, tandis qu'un liquide chaud et rouge vif se répand doucement sur la soie. Quelque chose flottait dans l'air lorsque Eulalie prit place derrière sa pile de paperasse. Ce genre de calme troublant qu'on peut ressentir sur une mer d'huile juste avant que la tempête arrive et emporte tout sur son passage. L'ouragan débarqua à 8h47, en ce pâle matin d'automne. Il se matérialisa en un visage. Celui d'un homme d'une quarantaine d'années, cheveux noirs en pétard, mal rasé, les paupières lourdes sur des yeux dont l'un était bleu et l'autre gris-pierre. Sa main droite était couverte de sang séché, rouge-brun, tout comme le col de sa chemise beige chiffonnée qui dépassait de son pantalon. L'individu était accompagné d'Hervé Mandrieux, gardien de la paix, et néanmoins collègue de la jeune lieutenant de police. Il a rien voulu me dire. Il veut parler qu'à un officier de police judiciaire. Aucune agressivité n'émanait de l'homme. Ses mains tricotaient nerveusement, donnant à son allure générale, à cette carrure élancée, une aura embarrassante. Très bien, asseyez-vous. Elle suggéra à Hervé d'un geste convenu de l'attendre dans le couloir. L'individu tira la chaise et s'y installa. Il ne savait visiblement pas où mettre ses mains, alors il les posa à plat sur ses genoux. Eulalie prit, elle, une position plus assurée, poings regroupés sous le menton, buste penché vers l'avant. Son regard balaya le visage de l'inconnu avant de se fixer sur l'œil bleu. Ses yeux verrons m'étaient mal à l'aise. « Comment vous appelez-vous ?»« Ganel Todanet. Je suis venu ici tout de suite, j'ai pas perdu de temps. Je voulais pas que vous croyiez que je cherche à fuir quelque chose. J'assume complètement ce que j'ai fait. »
Et qu'est-ce que vous avez fait ? »
Ganel écarta doucement un pan de sa veste et en sortit un étrange couteau, fait d'un manche aux allures de colonne vertébrale et d'une lame noire en acier damas, dont l'extrémité était ensanglantée. J'ai commis un meurtre. Depuis le couloir où elle se tenait avec Hervé, Eulalie scrutait ce curieux visiteur. On ne pouvait pas encore parler de suspect, puisque jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait pas encore de cadavre, et elle avait appris à ne pas tirer de conclusions hâtives, ayant vu défiler toutes sortes de frappadingues dans son bureau au fil des années. Il n'empêche que Ganel frottait le sang sur sa peau à l'aide d'un mouchoir méticuleusement humidifié du bout de sa langue. Hervé, tout à son observation de l'étrange couteau à travers le sachet à sceller, n'en revenait pas. « J'ai jamais vu une telle arme. On dirait une œuvre d'art, c'est peu commun. On la garde au chaud dans ton bureau pour le moment. Tu pars avec une équipe à l'adresse que l'individu nous a fournie. 8 rue de la Bruyère, Montrouge. C'est le domicile d'un homme du nom de Nathan de Gallois. C'est là-bas, dans une chambre, qu'aurait eu lieu le crime. Nathan de Gallois, l'artiste ? Eulalie avait parfois l'impression de débarquer d'une autre planète. Il faut dire que son univers se résumait à la course à pied pratiquée de façon obsessionnelle, à son chat persan et à son travail. Elle pouvait tenir un discours d'une heure sur les caractéristiques techniques d'une balle de 9 mm parabellum, mais tout le reste lui passait au-dessus de la tête, surtout depuis qu'elle s'était décidée à préparer le marathon de Berlin en s'astreignant à une discipline de vie toute germanique.
Excuse-moi, mais je ne vois pas.
Moi non plus, à vrai dire, répliqua Hervé. Je sais juste que c'est un artisan d'art dont on parle pas mal ces temps-ci dans les médias. Il expose au palais de Tokyo.
Tu me vérifies tout ça. Si notre homme dit la vérité, l'exposition risque de devenir posthume.
Ah oui, et aussi, il a donné le numéro de sa femme pour qu'on la prévienne. Elle lui tendit un papier qu'il glissa dans sa poche.
Si toutes les affaires pouvaient être aussi simples, souffla-t-il. On a l'assassin avant même d'avoir la victime. T'as déjà vu ça au cours de tes 10 années de carrière ? Eulalie lui adressa un sourire tout en posant la main sur la poignée de porte. Mes interminables années de carrière me disent surtout de ne pas me fier aux apparences. En matière de meurtre, rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Elle retourna dans son bureau et ferma derrière elle. Ganel observait les différentes médailles et coupes suspendues au-dessus de la grosse armoire métallique regorgeant de dossiers criminels. C'est votre tableau de chasse ? Eulalie reprit place face à lui. Puisqu'il était visiblement venu se livrer, elle décida de ne pas se montrer trop sèche. Le but était de le faire parler, pas de le bloquer ou de le faire se rétracter.
Ouais. Je ne sais plus où les stocker chez moi, alors je les rapporte ici.
Les fabricants de coupes devraient penser à l'espace que ça prend quand ils...
Je parlais des dossiers.
La coupa-t-il. Vous avez mené toutes ces affaires criminelles à terme ? Eulalie ouvrit un carnet devant elle et prit un stylo.
Non.
Bien sûr que non. Pas mal de dossiers sont encore en cours. Et puis, c'est un travail d'équipe, vous savez, je ne suis pas seul à enquêter.